que ça produit à chaque fois pour nous toutes et tous de venir et de rencontrer des artistes, des chercheurs, des chercheuses, des acteurs et actrices de l'industrie créative, de l'économie créative, va-t-on dire, de l'économie culturelle, de voir des établissements engagés dans cette réflexion, des éditeurs et des éditrices, évidemment, mais des rédactrices, des auteuristes, enfin, en fait, tout ce qui, professionnel ou citoyen, nous rassemble ici. Et ça prend plus que forme, ça prend corps, je voudrais dire. Voilà, et chaque fois, quand on s'en va, et c'est bien de le dire avant qu'on n'ait pas le temps de le dire parce qu'on s'en va, on repart tous avec une énergie décuplée ou en tout cas remobilisée pour accomplir parfois dans, je dirais pas dans la douleur quand même, il ne faut pas exagérer, mais dans la, parfois avec des, beaucoup d'écueils et beaucoup de contraintes, ce pour quoi on s'engage. Donc merci à Focus de faire ça. Voilà. Alors aujourd'hui on parle revue. On a fait une petite séparation un peu naturelle avec Chloé Pathé et Anne de Malré avec qui on prépare ces cafés de l'édition, qui peut paraître simple de dire bah tiens on va faire les livres un jour, enfin les ouvrages un jour et les revues le lendemain. D'abord ça tombait bien parce que ça faisait à peu près le même nombre de participants et participantes, mais il y a aussi que finalement comme on avait envie de le tourner autour de qu'est-ce que c'est que mettre en récit. Alors là, du texte en général, en tout cas pour majorité, il s'avère que c'est pas tout à fait pareil de penser à un livre et de penser à un article ou un dossier ou un numéro de revue. Donc voilà, c'est juste pour faire ce petit chapeau introductif qui dit tout et peut-être rien à la fois, mais qui fait que c'est pourquoi vous êtes rassemblés ici à l'instant. Moi, je suis Emmanuelle Korn, je travaille à la mission Médias et Sciences de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Et c'est à ce titre que j'ai pris le micro pour vous faire parler les uns après les autres et les unes après les autres. J'ai placé ma question, mes deux questions pour chacun et chacune d'entre vous pour 10 minutes. La première question, c'est de situer le titre de votre revue ou le titre de l'objet que vous avez dans les mains. On attend Riwanon pour carte sur table, mais je pense qu'elle était en réunion de labo, elle va arriver. Et puis la deuxième question, je l'ai placée avec un mot, j'aimerais bien qu'on parle d'itinéraire du récit. Chacun, vous produisez des articles ou des numéros de revue, vous les commandez pas, vous les fabriquez vous-même, vous êtes itinérant. Vous êtes anonyme, vous êtes des éditeuristes ou des auteuristes ou des dirigeants de la direction d'un numéro scientifique et vous avez des attentes, des espoirs et puis il y a des choses qui arrivent et comment est-ce que vous construisez, quel est l'itinéraire de ce contenu qui arrive et qui devient ce qu'il devient comme vous allez nous le présenter. Je commence juste par vous citer les uns les autres, je ne vais pas vous présenter en long en large, si vous voulez juste vous situer au moment où vous allez raconter cet itinéraire, dites qui vous êtes dans ce comité, dans cet collectif d'écrivains et d'écrivaines. Donc je ne vais pas me tromper, c'est David Bogert qui nous parle de la revue Passage. Voilà, une revue qui pour l'instant a deux numéros, tu nous en diras évidemment plus. Nathalie Meyer va nous parler de la revue In Situ. Lou Mallet va nous parler de la revue Z, cachée dans ta poche, très fort. Ingrid Senapart va nous parler de la revue Technique et Culture. Et enfin, Marie Morel de la revue Terrain. Et nous attendons Riwanon, elle n'est pas encore arrivée. Si quelqu'un la voit arriver avec... tu lui diras. Elle ne viendra pas. Bon, je ne sais pas. On me fait des gestes. Je ne parle pas. Je ne comprends pas le signe. Mais... ah ben, voilà.
Excusez-moi.
Mais on t'en prie.
Bonjour.
Bienvenue parmi nous. On a juste le temps de dire qui était qui. Et donc, tu es Riwanon Gouez. Et tu nous parleras de cartes sur table. Et on finira avec toi, si tu veux bien.
Ça marche.
Comme ça, tu pourras prendre le contre-pied de ce qui sera discuté ici. Alors, je commence avec David. David, est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi Passage s'appelle Passage ? Pour moi, le passage, c'est peut-être un lieu matérialisé ou mental qui nous permet d'aller d'un point à un autre. Et toi, je sais que tu as peut-être autre chose à nous dire de ce titre.
Merci. Alors, déjà peut-être pour situer le fait que je sois ici aujourd'hui avec vous. Moi, de base, en fait, je fais le déplacement depuis l'Aveyron. Et en tant que lecteur assidu, en fait, une coordinatrice en particulier de la revue a souhaité justement que je puisse répondre à cette invitation parce que depuis les débuts de la revue, j'ai eu l'occasion d'avoir des textes en fait qui m'ont été transmis pour que je puisse donner mon avis, de faire des retours y compris sur le format final et puis en fait d'en parler aussi un peu avec le cœur puisque c'est ça vraiment moi qui m'a pris aux tripes dans cette revue. C'est cette tentative d'essayer d'agencer différents domaines d'analyse sur des pouvoirs qui sont structurants dans la société moderne aujourd'hui, à savoir une critique de l'industrialisme, une critique du patriarcat, couplée d'une critique, d'une visée écologiste. Le tout avec un accent radical dans le sens remonter à la racine. Est-ce que c'est lié au fait que je voulais devenir archéologue lorsque j'étais gamin? Peut-être. Mais ce que j'apprécie à la lecture de cette revue, c'est justement d'essayer de remonter au plus loin qu'on puisse dans le temps, mais y compris de s'appuyer aussi sur des travaux d'anthropos pour remonter au plus loin de ce que les cultures non occidentales, non modernes, non technologisées permettent de voir. Voilà. Et donc passage au pluriel, je le comprends avant tout comme justement une envie de laisser la porte ouverte au sens qu'on veut lui donner. Personnellement, moi, j'y vois plutôt un passage de témoin. Là, typiquement, le numéro que vous voyez, Civilisation. En fait, moi, j'ai découvert avec ce numéro que depuis le moment où cette organisation sociale se met en place, donc au plus loin qu'on puisse remonter avec la ville d'Uruk en Mésopotamie en moins de 10 000 ans avant notre ère, dès le départ, des traces que les archéologues étudient, on voit déjà en fait des formes de résistance. On voit cette lecture aujourd'hui assez progressiste d'une longue fuite en avant s'effriter justement à la découverte de ces témoignages du passé. Et ça me plaît justement de lire ce titre de revue comme passage de témoin entre des personnes qui ne nous sont pas connues, qui probablement avaient cette révolte qui encore aujourd'hui soulève les peuples, mais sans avoir des étiquettes qu'aujourd'hui on aurait tendance à mettre dessus. Donc voilà, passage de témoin, passage à l'action du coup, puisque tous ces pouvoirs-là sont organisés avec une infrastructure matérielle, culturelle. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans ce cadre-là, d'essayer plus d'être dans une forme de récit narratif, de narratif alternatif, etc. Mais il y a quand même la question matérielle qui doit se poser, puisque pour que ces pouvoirs continuent d'être opérants, il faut qu'ils maintiennent la structure en place. Et du coup, je peux aussi voir justement cette lecture-là et des invitations, on va les appeler comme ça, à utiliser ces 10 doigts lorsque je lis cette revue. Voilà.
Il y avait un autre petit passage que tu avais relevé hier, quand on a discuté, ouais. Qu'on pouvait faire deux mots avec.
Ah oui, pardon, ouais, le fait de ne pas être sage, c'est-à-dire d'essayer de mettre en avant des lectures qui sont marginalisées en réalité.
Ouais. C'est là que le titre rencontre un peu votre organisation éditoriale, entre guillemets, vos auteurs et autrices sont anonymes. et si je comprends bien, ce ne sont pas forcément non plus des grandes figures qui s'expriment généralement dans les, on va dire, médias, qui ont en tout cas la place publique pour s'exprimer. Vous allez chercher, et vous êtes, je ne sais pas si toi tu écris aussi, mais vous êtes à la marge, ou moins connu, ou moins entendu peut-être.
Je vais parler moi de la connaissance que j'ai dans cette revue. Oui, c'est pas quelqu'un qui est pas issu du monde de l'université, qui a un cheminement assez chaotique, mais par contre qui a une constance de s'être depuis très jeune élevé contre les violences patriarcales. Et en fait, l'expérience. La volonté qu'elle a eue de vouloir s'élever contre et qui continue en fait à la pousser fait qu'il y a une écriture qui, du réel en fait, vraiment qui transparaît lorsque elle me présente des articles et que j'ai la chance de les relire. Je vois vraiment ça passer et voilà. Et ouais, peut-être la particularité du coup aussi de la revue, c'est elles sont toutes anonymes, les contributions. Donc c'est un collectif et qui fait le choix de l'anonymat pour trois raisons. Donc la première qui m'était présentée, c'était quelque chose d'assez commun malheureusement aujourd'hui, mais une manière de se protéger de la surveillance qui a cours à la fois dans les milieux militants et intellectuels, suivi de la criminalisation. Également le besoin, je pense, de limiter les envies de carrière. Et là-dessus, je rejoins pas mal un petit mot d'introduction qu'il y a dans le numéro 2 sur la nature et qui cite l'Encyclopédie des nuisances, donc une revue menée par Raimé Semprin et René Rizet dans les années 90, et qui dit en substance... à quoi cela sert d'être infâme, d'être fameux pardon, dans un monde infâme. Et j'aime beaucoup cette manière de présenter la chose. Et dernière explication, ouais, voilà, ce serait une manière en fait, de donner plus d'importance au contenu de la revue plutôt que en fait, à la figure exactement. Tout en faisant, j'imagine, un clin d'œil, en tout cas moi c'est comme ça que je le perçois, à des luttes en cours ou des luttes passées, des luttes encore présentes comme le zapatisme ou le fait de porter le passe-montagne est aussi une manière à la fois de se protéger des forces militaires mexicaines, mais aussi en fait de ne pas avoir une parole de représentation qui est monopolisée par une personne, malheureusement, et j'en suis la preuve aujourd'hui, des hommes.
Ça va, je crois qu'on a joué le jeu de la parité. Je termine juste avec l'itinéraire, puisque j'essaye de choisir ce mot qui peut marcher avec les revues qui sont là. Au-delà de si tu pourrais juste en dire un mot, c'est comment les articles ou comment les textes vous arrivent ou comment les propositions d'expression vous arrivent. Est-ce que vous les allez les chercher ou... Mais en fait, il y a aussi quelque chose de très intéressant avec cette revue, c'est que vous avez prévu un nombre clos, fermé, de numéros, pour ensuite, si j'espère ne rien dévoiler, former une sorte de manifeste et s'arrêter. Et ça, c'est ce que moi j'appelle votre itinéraire, en fait. Mais,
ok. Oui, effectivement, en fait, c'est un peu particulier comme exercice. Parce que, c'est une obsolescence programmée en réalité. Un peu particulier d'utiliser ce terme-là, mais sur 8 numéros, alors on me dit qu'il y a un prochain numéro justement qui est en cours d'écriture et que les autres thématiques sont déjà connues. Et ça me semble être un travail de maturation qui demande des rencontres pour essayer de savoir quelles sont les personnes qui vont contribuer au prochain numéro, participer également aux illustrations, puisque la force, il me semble, de cette revue, c'est justement d'accorder des analyses à un univers mental, à une forme de culture, et je trouve ça très agréable personnellement à la lecture de cette revue. Et voilà, mais bon, ça me semble assez chaotique. Enfin, moi, je vois seulement l'organisation de cette revue depuis une petite lorgnette. Ça, chaotique dans le sens où c'est fait au gré du vent, mais quand même avec une vision de où l'aventure se finira.
Alors, vous pourrez tout à l'heure, on va faire un peu comme hier, on va parler pendant une heure ensemble, et après, il y aura un temps de déambulation qui ne se télescope avec aucun autre temps du salon, donc vous pourrez en profiter pour aller évidemment ouvrir et feuilleter. Il y a aussi un travail iconographique presque qui relève, j'ose pas le dire, mais du naturalisme, qui convoque en tout cas beaucoup d'images autour du texte et beaucoup de références. Et c'est intéressant de voir aussi ces choses qui s'entremêlent dans nos yeux quand on ouvre la revue. Merci beaucoup. Nathalie Meyer pour la revue In Situ, qui est une revue numérique, électronique, d'abord.
Oui, alors...
D'abord sur le titre, Nathalie.
Oui, le titre. Alors, le titre. Alors, In Situ, je vous parle aujourd'hui de In Situ au regard des sciences sociales. Mais In Situ au regard des sciences sociales ne serait probablement pas né s'il n'y avait pas eu In Situ revue des patrimoines. Donc, In Situ Revue des Patrimoines, créée en 2001, première revue numérique du ministère de la Culture. Donc, ce sont deux revues institutionnelles, créées donc par le ministère de la Culture, en particulier la Direction Générale de l'Architecture et des Patrimoines, et In Situ au regard des sciences sociales, est née en 2019 et a été créée par Christian Autin, secondée au départ par Isabelle Chave, et maintenant, les deux rédacteurs en chef sont Christian Autin et Lily Martinet. Donc In Situ, comme c'est la petite sœur de l'autre In Situ, je reprends le titre par besoin, je pense, d'identification. Comme la première revue traitait du fait patrimonial ou des questions de patrimonialisation d'objets, de choses ou de paysages vus par des professionnels de la conservation, restauration et des chercheurs, essentiellement historiens de l'art ou architectes ou archivistes, la seconde revue, elle, propose un regard réflexif sur les processus de patrimonialisation vu par les sciences sociales, géographes, juristes, anthropologues, et vous pourrez compléter.
Merci pour avoir situé In Situ. Est-ce que on peut l'itinéraire ici, ce serait peut-être de commencer à pourquoi une revue d'abord numérique? Est-ce que c'est que des questions économique ou voilà, est-ce que au contraire il y a la volonté de pouvoir, et tu vas peut-être nous en parler là, d'augmenter par des biais que permet l'électronique?
Alors en effet, on a quand même un service public, donc l'idée c'est aussi de faire en sorte que le contenu des articles, que les apports des chercheurs soient accessibles au plus grand nombre. On a heureusement la possibilité de communiquer autour de ces parutions qui sont hébergées sur Open Edition aujourd'hui. Après, pour le fait que In Situ Revue des Patrimoines ait été numérique en 2001 et le soit toujours, même si nous faisons des déclinaisons, les maquettes sont téléchargeables, c'était aussi novateur à l'époque puisqu'il y avait très peu de revues qui était entièrement numérique, et c'était en effet l'idée de diffusion de la recherche, et aussi par rapport à l'industrie du papier, sans doute l'idée de quelque chose de plus frugal.
Et Qu'est-ce que du coup ça a engendré qui vous permet de publier autrement et pour resituer, décidément, dans notre salon?
Oui.
Comment est-ce que c'est par là que le sensible est arrivé? Est-ce que c'est du fait de cette revue électronique que la revue a pu imaginer d'autres formes d'écriture?
Oui.
Et proposer oui. Des récits sensibles, pour le dire vite.
Bah, c'est aussi, c'est essentiellement parce que c'est numérique que nous avons pu, déjà économiquement, c'est un médium qui est beaucoup moins cher que le papier, mais permet en effet d'ajouter des captures sonores, des vidéos et des entretiens, parce que nous avons un partenariat avec Nanterre Université, avec le Master 2 Cinéma Documentaire et Anthropologie Visuelle, pour réaliser des entretiens filmés que les étudiants donc de ce master réalisent. Et donc évidemment, le papier ne nous permettrait pas de rendre compte de ces entretiens vidéo. Par exemple, le numéro sur le patrimoine du théâtre contient un entretien avec Jean-Michel Ribes et avec des costumiers de la Comédie Française. Celui sur les visiteurs du patrimoine contient un entretien sur l'Ouvre-Lens, l'Observatoire des publics. C'est autant d'alternativités, de moyens de rendre compte du fait patrimonial différemment par des personnes qui n'auraient pas pris la plume.
Donc là, on se trouve devant un itinéraire qui nous fait aller d'un type de contenu écrit à d'autres contenus qui se complémentarisent, qui se répondent, qui s'augmentent et qui ajoutent de la narration.
Ça ajoute de la narration, d'autant plus, par exemple, là, dans le numéro, il rejoint un petit peu les préoccupations de la revue Passage. Dans le numéro sur les invisibles du patrimoine, il y a des capsules vidéo apportées par les auteurs, notamment par Esther Katz, Julie Cavignac, sur la consommation de fourmis au Brésil, où on voit donc... Et donc ça apporte aussi du sens et même chose, il y a aussi des vidéos sur le Brésil, sur les peuples autochtones du Brésil, sur des cascades qui sont dont le statut reste à définir. Il y a vraiment un apport de la vidéo à l'article et après qui contribue à la narration.
Merci Nathalie. On va passer le micro à Lou Mallet pour nous parler du titre de la revue Z.
Ouais. La revue Z, je pense que j'aurais rien à en dire de titre, car je ne sais pas vraiment d'où ça vient. si ce n'est que le logo de la revue Z, c'est deux croix qui sont. Enfin, deux flèches qui se complémentent et qui peuvent illustrer l'entretien. Une discussion, l'aller-retour dans une discussion. Mais en tout cas, il y a un sous-titre aussi à la revue qui, je pense, est plus parlante. Et du coup, c'est Revue Z, revue itinérante d'enquête et de critique sociale. Et du coup, l'aspect itinérant de la revue Z, c'est que chaque numéro, le collectif qui écrit, qui prend part au numéro, décide d'un territoire d'une ville sur lequel mener enquête et débarque. Alors, fut un temps, il y avait une caravane. La caravane est immobilisée maintenant, mais en tout cas, on est une dizaine, une douzaine à débarquer, à vivre ensemble pendant un mois sur un territoire choisi, sur lequel on va enquêter sur un sujet qu'on prédétermine en avance, soit parce qu'on se dit que c'est un bon moment pour aller étudier une thématique, soit parce qu'il y a eu une actualité politique spécifique à ce moment-là, et dans cette géographie-là. Et voilà, et l'idée de l'enquête, de l'itinérance, c'est vraiment de prendre part à la vie sur place comme si on y vivait vraiment, c'est-à-dire pas d'être dans un à côté, pas être dans quelque chose de... On regarde les gens, mais d'essayer de prendre part. Du coup, s'il y a un mouvement social, on participe aux manifs, on va dans des AG, on fait des entretiens avec des gens, mais même si on arrive depuis un extérieur et que du coup, on prend part de façon aussi un peu artificielle ou en tout cas éphémère à la vie sur place, mais on essaye d'y aller en tant qu'un peu égal, en disant aussi, en fait, nous, on est aussi militants dans nos géographies propres. Là, on est dans une autre géographie, mais on participe à quelque chose voilà, de collectif, de commun à cet endroit-là. Et après, on récolte beaucoup, beaucoup de matière parce qu'on est du coup une dizaine pendant un mois sur place. Ça fait une démultiplication des entretiens possibles. Et après, il y a un long processus derrière. On remâche ça, on sélectionne ça, on essaie d'avoir un propos autour de ça et on en fait une revue.
Vous incarnez quasiment, littéralement, le mot itinéraire. Du coup, moi, c'est ce processus juste après qui me pose question en tant que collectif. Alors, comment vous travaillez ? Parce que, d'abord, il y a beaucoup de matière, donc soit il faut la choisir, et ensuite, il faut la mettre en forme et en récit entre vous. Ou bien, est-ce que c'est singulier à chacun, à chacune qui écrit ? Voilà, là, il y a quelque chose qui nous intéresse pour avoir un beau numéro. C'est deux fois par an ?
Une fois tous les années et demie.
Bon, c'est...
Ben non, mais du coup, je pense que la régularité dépend du modèle économique. En fait, on est une revue qui ne touche très peu de subventions publiques et plutôt on s'est coupé les financements publics, donc on doit se tourner vers des financements privés de fondations et de la vente. Mais en tout cas, c'est un modèle qui est très, très, très fragile. Et du coup, c'est majoritairement du travail gratuit. Et ça prend beaucoup de temps, et du coup, par moment, on prend des pauses parce que juste les gens ont besoin de souffler, parce qu'on a trop fait ça et qu'on a envie de faire d'autres choses, parce qu'on a besoin de travailler pour bouffer, des choses comme ça. Mais à la genèse de la librairie, c'était des gens en journaliste qui avaient créé cette revue. Il y avait l'ambition de faire 4 numéros par an, ce qui me semble totalement délirant. Ça n'a pas tenu très longtemps. Mais en tout cas, sur ta question... ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'est une revue qui a été créée il y a plus de 15 ans, plus de 15 ans, et du coup, il y a eu plein d'équipes différentes qui ne se connaissent pas vraiment. C'est un outil, je pense, qui appartient à un endroit au lieu social et qui est apprécié par plein de gens. Et d'un coup, il y a des nouvelles personnes qui. Donc, il y a un enjeu de transmission permanente de comment est-ce qu'on fabrique cet objet collectif. Mais en tout cas, là, la nouvelle équipe qui est en place depuis environ 4 ans a décidé qu'il n'y ait pas de comité de direction. Enfin, en tout cas, que le collectif qui écrit la revue, c'est tout le monde. Et tout le monde décide collectivement. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne se subdivise pas le travail. Mais du coup, il y a un truc de pas entre nous créer de hiérarchie, de valeur et de « moi, je sais mieux faire ça que les autres ». Et du coup, plutôt on a essayé la nouvelle équipe de se pousser à se dire, mais en fait, on n'est ni journaliste, ni chercheuse, ni spécialiste des sujets, mais par contre, on fait quelque chose ensemble et on a envie de se créer mutuellement de la confiance et sortir d'un sentiment d'illégitimité qu'on pouvait connaître collectivement, notamment que c'est là le collectif, c'est beaucoup de personnes. Minorisés, en tout cas à l'endroit du genre qui y participent. Et du coup, il y avait ce sentiment de dire j'adore la revue Z, mais je me sens pas capable d'écrire dans la revue Z. Donc il y avait un premier travail de dire comment est-ce qu'on se donne collectivement ce sentiment de légitimité-là. Et pour l'itinéraire, bah, ça dépend vraiment, en fait, on essaye de voir la cohérence déjà. Une fois qu'on a fait l'enquête, on revient quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, on essaye de voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qui nous manquerait potentiellement, mais vraiment de partir de la matière qu'on a, et après de se dire, qu'est-ce qu'on en fait, quelle cohérence, quelle complémentarité entre les sujets, et puis aussi de varier beaucoup à l'endroit des formes, des formats d'articles, avec l'idée de se dire, c'est pas parce que j'ai fait 10 entretiens que je vais forcément en faire un texte écrit, mais peut-être ça va être juste de la photo, peut-être ça va être un poème, peut-être ça va être une BD. Il y avait beaucoup aussi ce truc-là de... quand on a rejoint, de passer par d'autres formes, des formes plus libres et peut-être plus sensibles, pour justement travailler ce sentiment d'illégitimité que peut être l'écriture et aussi l'écriture analytique, qui en vrai est grave difficile, qu'on ne maîtrise pas ni les sujets ni ce genre de format d'écriture. Et après, y a un autre processus qui n'est pas si simple, qui est le choix des différents articles, parce qu'en fait, on écrit là c'est 186 pages, à une époque c'était genre 250, on fait le choix de réduire parce que personne n'était capable de lire jusqu'au bout la revue Z, même les gens de la revue Z. Et comme c'est nous qui faisons tout de A à Z, en fait 50 pages en moins ou 20 pages en moins, c'est énormément de travail en moins. Mais du coup il y a un peu l'idée de se dire On pourrait faire aussi des revues de 400 pages, ce qu'on ne fait pas, mais on a assez de matière pour, et du coup, il y a un peu un truc entre nous aussi d'accepter de lâcher. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc-là de dire, c'est pas parce que j'ai porté pendant 3 semaines un sujet qu'il a forcément sa place dans le travail, dans la revue papier final, et peut-être qu'on en parlera quand on fait des présentations. Et ce truc-là de lâcher, il existe aussi dans l'écriture, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que ce qui existe dans la revue depuis le début et qu'on continue à garder, c'est qu'il y a un travail collectif d'écriture et de relecture, c'est-à-dire que chaque article est travaillé par 8 ou 9 personnes. Donc il y a une première salle d'écriture à 2 ou 3, puis une première salle de relecture à 2 ou 3, puis une deuxième salle de relecture à 2 ou 3, puis une troisième salle de relecture par les personnes qui font l'orthotypo. Et en fait, ça, à la fois, c'est challengeant, parce qu'on n'a pas l'habitude de ça, et encore moins dans les endroits où on apprend à écrire comme l'université, où en fait on est cloisonné et individualisé à son maximum, je trouve. Mais là, du coup, d'être dans quelque chose de collectif, et du coup, ça gravite de main en main, ça se transforme. Et pour revenir sur les questions de signature, au début de la revue Z, il n'y avait pas de signature non plus, pour à peu près les mêmes raisons qui ont été évoquées précédemment, mais au fur et à mesure, il y avait l'idée de dire, mais en fait, le fait de ne pas nommer rien, déjà, ça invisibilise qui prend part, et ça enlève aussi une part de responsabilisation dans le propos, mais en fait, ça permet pas aussi de montrer tout ce travail-là collectif. Et du coup, maintenant, là, par exemple, dans les derniers numéros, les personnes, il y a plusieurs noms. Donc il y a la personne qui écrit ou les personnes qui écrivent. Après, il y a les personnes qui ont aidé à l'écriture de façon ou d'une autre. Enfin, voilà, il y a plein de mots qui sont utilisés pour essayer d'un peu de montrer la matérialité de ce travail collectif-là, même si c'est très complexe à expliquer. Mais...
Non, mais en fait, tu fais quand même état d'une très grande liberté qui a un coût, puisque le collectif, c'est très compliqué. Vous lâchez pas, en fait, vous lâchez pas et vous trouvez les moyens de rendre compte de ce travail collectif. Donc c'est un bel itinéraire. Merci beaucoup. Avant, je voudrais aussi citer la revue Sensibilité des éditions Anna Mosa, qui n'a pas pris part physiquement là, parce que Chloé Pathé a parlé hier avec ses livres. Mais voilà, la revue Sensibilité est aussi là sur sa table, avec encore un très beau, très belle couverture colorée, comme l'a été comme l'ont été les bleus d'hier. Ingrid, tu vas nous parler technique et culture. Je vois que tu as apporté 3 exemplaires de 3 périodes, 4 même, 4 périodes très distinctes de cette revue pour des questions. Alors d'abord, tu nous diras comment tu te situes quand tu vas en parler, parce que tu peux avoir plusieurs casquettes chez Technique et Culture, comme on dit. Avec ces 4 exemplaires, tu vas nous dire quelque chose de l'itinéraire de la revue et de ce tournant de l'introduction d'autres narrations, d'autres écritures dans la revue.
Alors, merci de nous accueillir depuis déjà plusieurs années. Sur le titre déjà peut-être, donc Technique et Culture est une revue, alors là, au départ, totalement académique, qui est née au sein d'un programme de recherche qui s'est transformé, et de séminaire de recherche, qui s'est transformé progressivement en une revue qui a été fondée par Robert Cresswell, donc qui était un élu de le roi Gourand. Et le roi Gourand d'ailleurs était l'un des parrains de cette revue, née en 1983. Donc c'est une des plus vieilles revues aujourd'hui avec terrain d'anthropologie sociale, mais avec ce regard particulier qui est celui de l'anthropologie des techniques et de l'archéologie aussi, puisque à l'origine, donc, c'est ces deux disciplines qui vont être mises en avant dans la revue. Et le choix du titre, puisqu'on en parlait, a fait débat à l'origine pour savoir si on mettait technique avec un S, technique sans S, culture avec un S, culture sans S. Donc c'est devenu technique avec un S et culture sans S. Donc on pourrait encore aujourd'hui se poser la question avec justement ces itinéraires variés qu'a suivi la revue. Mais c'est la focale de cette recherche, c'est qu'est-ce que font les techniques sur nos sociétés, quelles sont leurs places et comment elles font société. Et donc moi, personnellement, je suis archéologue ou historienne, donc c'est sûr que cet aspect technique est essentiel, en tout cas dans ma pratique de recherche, et est devenu également essentiel dans ma pratique au sein de Technique et Culture, puisque je suis maintenant à peu près une des plus anciennes du comité de rédaction actuel, et j'ai connu effectivement des évolutions diverses et variées. Et je ne l'ai pas fait exprès, mais le numéro le plus ancien donc, s'appelle Itinéraire et Escale, celui que j'avais à la maison, mais voilà, ça tombe bien. Donc pour décrire cette revue, donc, comme je disais, au départ académique, donc dans le domaine académique, et en particulier en anthropologie, c'était moins le cas en archéologie, parce que les archéologues manient le dessin et la photographie depuis longtemps et surtout s'en servent comme document, pas seulement graphique, mais scientifique. Mais pour vous donner une idée, ça c'est une revue académique classique, donc des années 80 et voire auparavant, même les premiers numéros sont ronéotypés. Oui. Donc c'est encore même une histoire de la technique qu'il faudra faire un de ces jours. Et puis, cet itinéraire nous a conduit aujourd'hui à intégrer la photo, les illustrations, etc., pour devenir ceci. Vous voyez, donc le parcours est quand même assez intéressant. Et pour en revenir donc, à cet itinéraire, pourquoi ce parcours a intégré progressivement, effectivement, un autre type de discours. Parce que la revue qui a été pendant longtemps à Paris a été délocalisée à Marseille, donc elle est maintenant ici. Et au moment de son arrivée sur Marseille, bien, Fred Julien, qui était le rédacteur-chef de la revue, a proposé donc de faire, qui était intéressé justement par ces cultures alternatives de l'écrit et de l'image dans les sciences sociales, il était venu présenter l'année dernière donc un ouvrage sur le bambou, illustré par une illustratrice et des photographes, donc a proposé au comité de rédaction de l'époque de faire entrer justement ces nouveaux, c'était pas des nouveaux médias, mais c'était un peu obligé aussi, en particulier dans le domaine de l'anthropologie, de faire entrer ce média, alors soit comme document scientifique, illustrant, soit comme aussi pouvant être l'élément essentiel, par exemple avec des portraits.
Oui, en effet, on voit l'image arriver dans la revue comme illustrative, et petit à petit commencent à se construire des récits uniquement avec la photographie ou avec la bande dessinée, enfin, ou le dessin en général, et c'est quand même un changement important.
Oui, parce que en parallèle aussi, Frédéric Julien avait conduit un séminaire qui était raconté autrement, qui a aussi joué dans cette transformation de la revue, dans la mesure où on a été en contact avec d'autres opérateurs et d'autres créateurs. Et également, à partir du moment où on a commencé à mettre des images et à ouvrir cette revue à d'autres médias, on a aussi ouvert la revue à d'autres disciplines. Des disciplines comme l'histoire, le design, la sociologie, la philosophie. Donc, du coup, on a aussi des propositions un peu différentes de raconter le récit. Bien que on garde bien sûr l'idée que ces récits ou que cette nouvelle manière de raconter correspondent d'abord à un récit qui reste malgré tout, je dirais, scientifique ou académique, puisque c'est une revue de rang A, donc on est tenu quand même à être en ligne tenu à ce discours. Et bien évidemment que la technique, la chaîne opératoire, enfin tout ce qui fait notre ADN, puisse mettre en relation, quelle que soit la discipline, avec le propos de la revue.
Et bien voilà, les prochaines bandes dessinées en sciences humaines et sociales seront de rang A. Merci de nous donner beaucoup d'espoir. J'ai fait exprès jusque-là, parce que ça n'avait apparemment pas besoin d'être dit, puisque chacun l'a fait, mais de ne pas différencier ce qui est strictement académique, produit par les financements de la recherche, etc., parce que je ne voulais pas créer cette dichotomie entre vous, et surtout, on a tellement déjà parlé d'économie, hélas, des revues et des livres en sciences humaines et sociales, qu'aujourd'hui j'avais envie de laisser la place à autre chose, mais tout le monde aura compris qu'il y a beaucoup plus de difficultés à faire ce qu'il doit faire. Et pour les autres, ça commence à devenir aussi très très compliqué, évidemment. On va continuer avec Marie pour la revue Terrain. Alors, Terrain n'est pas qu'une revue, tu vas nous le dire. Et puis, j'aimerais bien que tu nous racontes, alors là, pour le coup, l'itinéraire d'un contenu qui arrive et qui peut ne pas rester un article.
Merci beaucoup pour l'invitation. On est toujours ravis de revenir à Marseille pour discuter avec vous. Moi, j'ai triché sur la consigne. J'ai pas amené un seul numéro. J'ai amené le tout premier et le tout dernier. Ah. Alors, le tout premier, quand même, vous noterez une évolution graphique, qui, comme nos voisins et amis Technique et Culture, qui est né en 83. Et pour expliciter le titre de la revue Terrain, je vais prendre la voix. Le dernier numéro s'appelle L'illusion vocale. Je vais faire illusion. Je vais emprunter les mots du ministre de la Culture en 1983, qui disait « Terrain » avec le sous-titre « Carnet du patrimoine ethnologique » est un titre prometteur pour une revue que l'on souhaite lieu de convergence. Bon, ça, c'était le numéro 1. Et en fait, « Terrain », alors je ne sais pas si c'est un titre prometteur, mais pour le coup, on en est quand même au numéro 84. Et décliné sous plusieurs formes et pas que la revue. Alors, je suis désolée, j'ai pris des notes sur mon téléphone, c'est pas bien. Pourquoi le titre terrain? C'est surtout que ça. En anthropologie, le terrain, en fait, c'est le cœur du métier. C'est le moment, j'allais dire, le plus sympa, mais c'est le moment où on part du bureau, souvent loin, ou des fois juste à côté, mais on n'est plus dans le bureau, et on va à la rencontre des personnes qu'on va étudier pour écouter, observer, partager le quotidien des gens. Et c'est le début de tout, et c'est pas juste un endroit géographique, c'est aussi un lieu effectivement de convergence, de partage, et où on peut questionner le monde, ce qui est un peu l'ambition de la revue. Et lorsque ça a été créé, donc en 1983, à l'initiation de la mission pour le patrimoine ethnographique du ministère de la Culture, c'était un manifeste, en fait, comme titre. C'est en partie des enquêtes d'observation, du concret, des pratiques au quotidien des chercheurs et chercheuses, plutôt que de partir de la théorie. Donc c'est vraiment le parti pris. Et terrain aussi, c'est un peu plus que le terrain d'enquête et le lieu, c'est aussi un petit labo d'expérimentation où on peut tenter des choses en raté, ça arrive souvent. C'est un peu une friche, c'est souvent le bazar, c'est toujours en chantier, mais c'est assez foisonnant. Et du coup, en plus de la revue, il y a eu effectivement d'autres formats qui l'accompagnent, et notamment en clin d'œil au premier sous-titre de la revue, parce que maintenant le sous-titre c'est anthropologie et sciences humaines en général, parce que la revue n'accueille pas que des anthropologues, mais aussi selon les thématiques abordées, des chercheurs et chercheuses dans d'autres disciplines, ça peut aller de l'archéologie à l'architecture, la psychiatrie, plein d'autres choses. Et donc le premier sous-titre, c'était « Carnet au pluriel du patrimoine ethnographique ». Et un des grands succès de la revue, je pense, c'est la pépite la plus dynamique, c'est le carnet hypothèse, donc il y a un blog qui s'appelle « Carnet de terrain », où il y a pas mal d'expérimentations, de formats différents, et on voit toute une émulation de jeunes chercheurs et chercheuses, plus jeunes, moins jeunes, de tous les âges, et aussi une fenêtre pour pas mal de jeunes, alors là des étudiants, voire même des scolaires, pour rentrer et découvrir un peu le métier des anthropologues.
C'est un carnet qui a énormément de succès.
Plus que la revue.
C'est pas vrai.
Mais Donc voilà, l'idée c'était de partir du concret et chaque numéro a des thématiques vraiment différentes. Et là,
au-delà de la thématique, vous avez toujours même un mot, enfin souvent un mot, des fois deux, mais des mots très forts en fait, vraiment qui font toujours émotion en tout cas.
Alors là, on dévie un peu ces derniers temps sur les mots, c'est qu'avant c'était souvent un verbe ou un mot, genre rire, attendre, boire, parler. Et là, bon, on expérimente un peu des titres, des fois à regret, des fois avec chance. Animal Cult étant un grand succès. Il y a une autrice d'ailleurs qui présente un pitch à Animal Cult, qui fait un super article dans Animal Cult. Et là, l'illusion vocale, pour tout vous dire, ça devait s'appeler Casser la voix. Je pense qu'on a une bonne intuition.
Ouf.
Ça a été 47 messages WhatsApp en 2 jours au mois de juillet l'an dernier avec le diffuseur Hugo qui nous a dit ça va pas être possible. La couverture qui était prévue était une langue un peu en mode Rolling Stone. Qui tirait la langue et tout le monde a dit mais c'est hyper porno, ça peut passer, c'est pas moyen. Donc ça a été un grand débat et ça finit en l'illusion vocale, qui est un titre assez sage, qui parle pas forcément mais qui intrigue un peu. Voilà, ça a été...
Alors raconte-nous un itinéraire.
Mais justement, je vais vous dire, tout ce qu'a dit, était dit qu'on l'a revisé, est très très juste. Les formats qu'on essaye d'approcher, c'est ce qui est un peu plus libre et sensible, c'est très pertinent. Mais aussi, il y a des questions de temps et de moyens. Et là, par exemple, sur ce numéro, plusieurs formats étaient convoités et on n'a pas réussi à tous les mettre en place par faute de temps, d'énergie, de disponibilité, tout ça. Et pour ce numéro, il y avait une discussion de départ, parce qu'il y a quand même 4 porteurs de projet, plus les rédactions, plus le conseil de rédaction, et les étudiants et étudiantes impliqués dans la création du numéro. Donc tous ces gens ont des envies, des attentes. Il y a un appel à contribution qui est mis en ligne, qui est déjà le fruit de 6 mois, voire 1 an de discussion. Et on ne reçoit pas forcément ce qu'on attendait, ce qui est plutôt bien. Mais du coup, on fait avec les propositions, et c'est toujours très dur de sélectionner parmi une 50aine de propositions, 300 mots, savoir si ça va être bien ou pas, ce qu'on peut en faire. Là, ils ont fait une sélection, on a pris un peu plus que ce qu'on pouvait publier. Et beaucoup des auteurs, en fait, spontanément proposaient des articles sur un format assez classique. Et selon les thématiques qu'ils proposaient et leur angle d'attaque, on essayait de se projeter en discussion avec les coordinateurs, les coordinatrices de numéros et les membres du conseil de rédaction. On disait, ça, j'adorerais que ce soit un récit. Ça, j'adorerais que ce soit une carte, enfin, des formats comme ça, où plusieurs personnes avaient des envies très différentes en fonction du sujet qui était amené par les auteurs et autrices. Et finalement, le fruit de ces discussions, après ces discussions-là, on passe commande auprès des auteurs en disant « Vous ne voulez pas faire un petit pas de côté pour proposer autre chose ?» Alors, ça va être plus court, ça va être plus contraignant, mais vous allez voir, ça va être plus lu et ça va être plus sympa. Et en même temps, après, il y a les évaluateurs et évaluatrices qui font leur job, et qui me disent « Ah là, c'est pas possible, il faut rajouter ça, 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 30 notes de bas de page, et on peut pas !» Parce que malheureusement, on travaille toujours avec des techniques offset d'imprimerie, donc on est contraint par des cahiers de 16 pages. Donc quand un article déborde de 2 pages, il faut que j'en coupe 2 à quelqu'un, ou que j'enlève 2 dessins, c'est quand même très dommage, ou que j'en rajoute 14 pages.
Ou que tu travailles la colorimétrie de ces 16 pages-là, parce que c'est pas la même que ça.
Exactement, et surtout, ça coûte 2 500 € de plus. Donc, clairement, est-ce que 2 pages, on rabote, on fait ce qu'on peut. Mais là, par exemple, il y a des récits qui étaient fabuleux avant l'évaluation sous la forme récit. Et avec tous les ajouts disciplinaires qu'on a demandé, s'en retrouver à faire le double en volume de pages. Donc, au lieu de faire 16 pages dans le terrain, ça aurait fait 32 pages avec la mise en page qu'on utilise. Donc, on s'est dit, dommage. Alors, on a 2 portfolios. Intéressant, mais qui sont des portfolios sonores, quand même très particuliers pour une revue de papier. Donc on a essayé de mettre des liens partout, des QR codes, voilà. Et il va falloir aller sur le blog pour regarder, cliquer sur les liens. Et finalement, quand on n'a pas réussi à avoir une variété de formats visuels pour ce numéro, on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de choses à entendre, parce qu'il s'agissait de faire parler plein de voix différentes, des voix inattendues, des voix artificielles, des voix de chamans, des voix du passé, enfin, des voix de radio. Et on s'est dit que, par connivence, parce qu'on connaissait des étudiants et des étudiantes de l'école Louis-Lumière, dit pourquoi on leur demanderait pas de créer des motifs sonores qui accompagneraient la lecture de ce numéro. Et donc il y a 5 auteurs qui sont, et autrices qui sont portés volontaires pour faire un binôme avec les étudiants et étudiantes et qui ont passé tout l'automne à travailler sur des sons à partir des archives de terrain des chercheurs et chercheuses, à partir de motifs sonores qu'ils avaient en tête, pour essayer de casser des stéréotypes auxquels on s'attendrait, notamment sur l'élevage des oiseaux au Brésil de Laurie Vandevelde et de Matteo Knox. On avait tout de suite en tête des bruits de forêt, de rivière, tout ça. Et en fait, les oiseaux, ils sont élevés dans la ville de Sao Paulo, en plein milieu du bazar ambiant. Donc c'était assez sympa de faire se mélanger ces sons-là. Et donc il y a eu tout un travail de création qui intéressait à la fois les ingé-sons qu'on travaillait et les autrices et auteurs. Et on a aussi, comme habituellement pour les numéros de printemps, demandé aux étudiantes et aux étudiants de l'école Estienne, d'une école de toute la chaîne de livres, mais qui a un master d'illustration scientifique, et qui, en dehors des planches de biologie, des herbiers et des planches de médecine, de temps en temps font un pas de côté aussi, font un peu d'illustration figurative ou pas, pour terrain. Ils lisent tous les articles, et là on leur a demandé de donner à voir les voix. Ce n'est pas... On avait un numéro qui s'appelait « Voir la musique », mais là, c'était « Dessiner les voix », ce qui n'est pas non plus hyper facile. Mais donc, ce mélange était assez intéressant, et pour une fois, tout ce monde-là s'est rencontré. Donc, c'était assez chouette de voir l'émulation entre les illustrateurs, les créateurs sonores, les auteurs, et le public, j'espère, bientôt, parce qu'il sort la semaine prochaine en librairie. Donc, on va essayer d'aller à la rencontre du public le plus vaste.
Eh bien, merci pour ce beau récit. On va te laisser parler, Riwanon, pour nous parler peut-être du seul objet ici qui n'est pas un objet relié, qui néanmoins constitue des récits et a sa cohérence, bien évidemment. Et ça s'appelle Carte sur table, et je te laisse nous dire de quoi il s'agit.
D'accord, merci beaucoup pour l'accueil. Alors moi, je vais parler au nom d'une équipe de 3 personnes. Mes 2 collègues qui sont également anthropologues ne sont pas là. Je suis doctorante et avec de nombreuses collègues, que ce soit au niveau des personnes qui ont déjà un poste, des personnes qui sont en train d'apprendre en master ou en doctorat, on avait fait un même constat qui nous a généré de la colère. Lié au terrain, du coup, de comment est-ce que, quand on est en formation, on part sur le terrain en étant complètement, en général, pas du tout préparé à la question des violences sexistes et sexuelles, des violences de genre, qui peuvent avoir lieu sur le terrain, que ce soit quand on est soi-même, en fait, en train d'exercer des violences auprès de nos enquêtés, ou si on y est exposé d'une façon ou d'une autre. Et si ça arrive, bah, qu'est-ce qu'on en fait ? À qui on en parle, comment, est-ce que c'est censuré dans nos travaux scientifiques et qu'est-ce que ça implique aussi sur la façon dont on produit des connaissances. Et du coup, face à ce constat, qu'il y a une vraie, on trouve que la levée du tabou dans la recherche francophone, notamment par rapport à la recherche anglophone et hispanophone, elle est assez timide. Et pour y contribuer, on a essayé d'inventer un outil pédagogique qui puisse contribuer à sa façon à générer du dialogue. On s'est dit que c'est déjà bien, qu'on commence à en parler dans différents espaces, et donc plutôt que de produire des textes qui ne sont pas forcément lus, que ce soit un outil, un dispositif pour créer des ateliers et donc des espaces de rencontre en mélangeant les statuts dans les laboratoires et puis dans les universités pour parler de la question des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc on est peut-être parti du constat du terrain, mais ensuite on se rend compte que ça fait partie d'un continuum, et donc on invite à réfléchir aussi à ce qui se passe dans les laboratoires, donc dans nos bureaux, etc. Et c'est pour ça qu'on a créé des cartes qui sont en 5 sections, que je vais vous présenter très brièvement. Donc la première, en effet, sur les laboratoires et l'université, selon les statuts et selon la position qu'on a. Et encore une fois, on n'est pas obligé, donc il y a des cartes qui proposent de raconter une situation qui est vécue ou pas. Des fois, ça amène à réfléchir, on peut faire un pas de côté, et ce n'est pas forcément une exposition d'une expérience personnelle. Ensuite, on a une deuxième section qui s'appelle « Dans l'enquête, sur le terrain ». Donc c'est le moment de l'enquête, mais pas seulement pour les anthropologues, les sociologues. On a essayé de réfléchir aussi au contexte pour les archéologues des chantiers de fouilles. On a eu beaucoup de retours de collègues sur les questions de violence de genre entre les membres des équipes sur les chantiers. Et puis aussi pour les historiens, les historiennes au moment des archives. Donc voilà. Une autre section qui s'appelle « Dans mon travail de recherche ». Alors cette fois, comme je l'ai mentionné, c'est qu'est-ce que ça implique au niveau de la production de la connaissance. Et est-ce qu'on met ou non en écriture ce qui peut apparaître parfois, que ce soit les notions de sexualité ou d'intimité, pas forcément de violence, qui des fois n'apparaissent même pas dans notre carnet de terrain. Et si elles apparaissent dans notre carnet de terrain, pourquoi est-ce qu'elles disparaissent au moment des conférences, des colloques, des séminaires, ou alors au moment des articles qu'on va écrire, alors que on est persuadé que ça influence la façon de transmettre son savoir et de le produire. Donc voilà, c'est la valeur heuristique des violences de genre. Et puis, enfin, une quatrième section qui s'appelle « Elles ont dit, qu'en pensez-vous ?». Donc évidemment, notre travail, nous, pour créer des cartes qui invitent à réfléchir, il est basé aussi sur donc, le fait d'avoir récolté des témoignages, mais aussi la lecture quand même, le plus possible de toute la bibliographie qu'on a trouvée sur la question, en français, en espagnol et en anglais. Et donc, on a rassemblé des citations pour amener à réfléchir et permettre aussi d'avoir des fois des pauses dans le dialogue pour ne pas être amené toujours à questionner ses propres pratiques, mais prendre peut-être un petit peu de distance et voir aussi comment on le met en mots. Et enfin, il ne s'agit pas seulement d'une prise de conscience et d'une critique pour la lutte contre les violences de genre dans nos milieux de travail et de recherche, mais aussi essayer d'imaginer ce qu'on souhaite pour que ça s'améliore. Et du coup, si on identifie des failles, qu'est-ce qu'on propose aussi? Et l'idée, c'est qu'à la fin de l'atelier, au moment de la restitution collective, chacun et chacune reparte avec des pistes d'action, que ce soit individuelle ou collective aussi. Donc voilà, c'est la dernière section imaginée.
Tu peux nous lire celle que tu as sous les yeux, juste la question?
Oui, ça s'appelle « Imaginez un moment de confiance en vous ».
Et sur une question parmi un témoignage, juste parce que moi j'en ai lu 2-3 tout à l'heure, j'ai eu l'impression que c'était, enfin moi, très intéressant parce qu'il y avait toujours presque 2 questions en une. Et je ne sais pas si c'était le hasard, mais comme en fait je me disais, je peux d'abord répondre à la première et à la deuxième, de toute façon il y avait de la place pour tout le monde et de la place à la discussion. Et je me suis demandé si c'était une technique pour faire en sorte que de toute façon il y ait dialogue et que ce ne soit pas une question fermée en disant oui, non, en fait.
Oui, on a beaucoup. En fait, ce qui était intéressant dans l'itinéraire, donc le processus de création des cartes, c'est que nous-mêmes, à chaque fois, les cartes qu'on a gardées, c'est celles qui ont suscité un dialogue entre nous pour les créer. C'est-à-dire que c'est pas évident comment on nomme les choses et comment on laisse place, en plus en sachant qu'on va partager ensuite l'outil à des personnes qui n'ont pas le même niveau de socialisation à ces questions, de prise de conscience ou de faciliter aussi à libérer la parole par rapport à une expérience vécue. Du coup, on a toujours essayé de jouer oui, avec parfois des doubles sens ou différents niveaux de compréhension de la question. Mais là, par exemple, dans mon travail de recherche, je fais le lien entre objet de recherche et parcours biographique. Du coup, ça fait écho à plusieurs choses que vous avez dit, c'est comment on décloisonne aussi les savoirs scientifiques, tout en restant dans le cadre de la recherche. Mais donc, et aussi les enjeux de la réflexivité. Aujourd'hui, c'est très largement accepté qu'en sciences sociales, on doit faire preuve de réflexivité d'un point de vue situé, face à notre travail, etc. Mais on estime que quand même, il y a encore des choses qui sont acceptables et considérées comme dissibles et aussi entendables. Et du coup, c'est pas seulement comment on le dit, mais aussi comment on reçoit. Et donc l'idée d'un dialogue, comme on fait là, c'est d'apprendre aussi à écouter et à recevoir les témoignages issus de cette réflexivité. Voilà, je ne sais pas si je vous en donne une autre. Alors, au laboratoire, par exemple, raconter une situation où le fait d'être assigné femme ou homme a favorisé ou empêché de penser, dire ou faire certaines choses. Et puis sinon, autre chose que là j'ai pourri. Au laboratoire ou à l'université, on m'a reproché une attitude ou un propos perçu comme sexiste, raciste ou discriminatoire. Et l'idée, là, je ne les sors pas forcément, c'est qu'on a essayé à chaque fois de ramener aussi les violences de genre dans leur articulation avec d'autres rapports de pouvoir. Donc l'articulation n'est pas seulement dans les contextes, mais aussi avec d'autres rapports de domination, donc agiste, classiste, raciste, etc. Et justement, là, je suis arrivée en retard parce qu'on était en train de faire un atelier avec d'autres doctorants venus de Paris. Et c'est ça qui les a marqués, de se rendre compte à quel point on faisait toutes et tous partie de ce système. Et du coup, à la fois, c'est un peu inquiétant, mais l'idée de faire tout, que fassent tous et toutes partie du même problème, ça veut dire qu'on a quelque chose à y faire, on a tous et toutes des leviers d'action. Voilà.
Eh ben merci beaucoup pour tous ces itinéraires. On n'est pas très nombreuses dans la salle. On va de toute façon aller autour de vos tables, revues et objets éditorialisés. Est-ce que quand même, peut-être il y a quelqu'un qui a envie de poser une question à quelqu'un et que tout le monde profite de la réponse, si elle est un peu générale, ou si vous avez, comme hier, ce qui a très bien marché et qui a fait un peu de chaos et c'était très bien, vous voulez aller vous diriger vers les personnes avec qui vous avez envie de discuter plus tranquillement, peut-être, libérer la parole autrement qu'avec le micro.